Alors, on a tout un sujet ce matin. J'espère qu'on va pouvoir avancer. J'en ai déjà parlé en long et en large, mais je pense que ça vaut la peine de reviser ça puis de regarder ensemble cet ennemi-là. On a un ennemi, hein? L'apôtre Paul avait un combat, on s'en souvient. On a vu l'action du Saint-Esprit. On a vu que l'action du Saint-Esprit, c'est qui a amené Paul à Jérusalem, c'est qu'il dit qu'il a été comme lié. Il était lié par le Saint-Esprit. Et ce que ça nous décrit, c'est qu'il y avait une force là, qui le passionnait, qui le saisissait, qui l'entraînait, qui le motivait, qui était plus grande que lui, puis qui faisait qu'il était prêt d'aller à la mort, qu'il était prêt à aller. Il n'y avait pas de problème avec ça. Alors, il était lié par le Saint-Esprit. Lié par le Saint-Esprit, ce n'est pas une relation toxique qu'on peut être lié par des personnes, comme des personnes qui sont sous l'esclavage ou des personnes qui sont abusées par d'autres personnes. La personne n'a plus dire un mot, ne peut plus rien faire parce qu'elle va être détruite par l'autre personne qui est méchante, qui veut lui faire du mal. Alors, ce n'est pas ce genre de lien-là qu'on a avec l'Esprit. Quelle sorte de lien qu'on a avec l'Esprit? Une image vaut mille mots. Ça, c'est des liens, c'est les bras d'amour. C'est des liens d'amour qu'on a avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne nous traite pas comme avec un fouet pour nous faire avancer. Non, il veut qu'on agisse par amour. C'est les liens qu'on a avec le Père, hein? C'est des liens d'affection. Nous sommes les fils et les filles bien-aimés de Dieu. Et c'est ce lien-là d'affection avec le Seigneur, c'est ça qui nous motive à suivre le Seigneur. Paul n'avait aucune crainte, il n'avait aucune peur, il était prêt à aller à la mort, à perdre sa vie, si on peut dire, parce qu'il gagnait. Il gagnait la vie avec le Seigneur. Et je pense que c'était une bonne leçon pour nous, qu'on peut perdre des choses dans la vie pour gagner les choses du Seigneur. Puis on est gagnant. Alors, j'ai pensé ce matin faire une parenthèse. Ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Sortir des Actes des Apôtres. On a vu le Saint-Esprit dans les Actes des Apôtres. On va faire une petite excursion en dehors des Actes des Apôtres. Dans les Actes, on parle beaucoup d'être rempli du Saint-Esprit, d'être plein du Saint-Esprit. Il y a une vingtaine de références dans les Actes des Apôtres qui parlent d'être rempli du Saint-Esprit. Savez-vous qu'il y en a, combien il y en a dans les Épîtres? Dans toutes les Épîtres qui parlent d'être rempli du Saint-Esprit? Essayez quelque chose. Vous avez le droit de vous tromper, hein? Combien vous mettriez? Il y en a 20 dans les Actes, dans toutes les Épîtres.
Est-ce que comment je vais deviner une?
Hey! Il n'est pas pasteur pour rien. Hein? Ouais. Hein? Il y a une référence à la plénitude du Saint-Esprit. Une fois, c'est mentionné, et c'est le contraire de s'enivrer, le contraire de perdre nos facultés. Et être rempli de l'Esprit, c'est notre être tout entier, toutes nos facultés, notre intelligence, nos émotions, notre volonté, notre imagination qui est renouvelée et qui se met à faire quoi? Qu'est-ce qu'une personne remplie du Saint-Esprit a l'air? Chante. Avez-vous chanté des cantiques cette semaine? Hein? En travaillant, on peut chanter des cantiques. Vous avez un signe que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Si vous vous mettez à chanter des cantiques, même dans des situations difficiles, vous avez quelque chose d'extraordinaire, là. Quelque chose qui est au-delà de la nature humaine. Hein? Les autres choses, c'est rendez toujours grâce. Merci, Seigneur. Avez-vous dit merci, Seigneur, cette semaine? Et l'autre chose, c'est la soumission. élever l'autre personne. Hein? On regarde les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes, puis on élève ces personnes-là. Au lieu de les descendre, on élève la personne. On trouve des bonnes choses dans la personne. Alors ça, c'est la seule référence dans les Épîtres. Quand on va dans les Épîtres maintenant, on voit que l'opposition change. Dans les Actes, l'ennemi, c'est les Juifs. L'Évangile est un scandale pour les Juifs. Les Grecs, l'Évangile est une folie pour les Grecs. Et les Romains, qui sont menacés parce que le règne de Jésus-Christ les menace. Quand on arrive dans les Épîtres, l'ennemi est différent. L'ennemi est intérieur. Avez-vous une idée? Vous l'aviez dans le titre tantôt pour vous aider. La chair. L'ennemi change de place. On a un ennemi qui est à l'intérieur. Dans l'Épître aux Romains, alors, il parle de marcher selon l'Esprit. Il ne parle pas de plénitude, mais il parle de marcher selon l'Esprit. Il parle de vivre selon l'Esprit, de s'affectionner aux choses de l'Esprit, de vivre dans l'Esprit et d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Ce sont les termes qui sont employés pour décrire l'action du Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Et dans Galates, qui est le passage parallèle, c'est à peu près la même chose. Marcher selon l'Esprit, être conduit par l'Esprit et vivre et marcher selon l'Esprit. Ça, c'est les termes qui sont employés dans les Épîtres pour parler de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Alors, ça veut dire quoi, marcher selon le Saint-Esprit? Être conduit par l'Esprit? Vivre selon l'Esprit, ça veut dire quoi en pratique? On va regarder ça ensemble. Le texte que je souligne là, c'est si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Vous n'avez pas un policier qui vous suit partout dans la semaine, puis qui va vous arrêter. Suis-moi, là, puis tu vas payer pour ce que tu as fait de pas correct. Ce n'est pas comme ça que le Saint-Esprit travaille. Et j'avais un prof comme ça, là. Il se promenait, et puis aussitôt qu'on était dans la lune, aussitôt qu'on faisait quelque chose, la tape en arrière de la tête. Hein? C'était dans la classe, il y avait une discipline de fer. Et on allait dans le corridor si vraiment on était trop désobéissant. Et je fais une petite parenthèse pour parler aux parents. Les parents, attention, hein? Ça a été mon erreur, notre erreur. Si on élève nos enfants seulement avec la discipline, avec des punitions, il y a un danger. C'est risqué. Et c'est quoi le danger? L'enfant va grandir avec une mauvaise image de lui-même. Si tu tapes dessus continuellement, l'enfant, il va finir par penser et croire qu'il n'est pas bon. Il n'est pas fin, il n'est pas aimable, il n'a pas de valeur. Et sans amour, l'enfant n'est rien. Sans amour, je ne suis rien. Alors, qu'est-ce que l'enfant va faire? Il y en a qui vont se mettre à performer. Hein? Ils vont essayer de se prouver à eux-mêmes, se prouver aux autres, aux parents, qu'ils ont de la valeur. Mais ça, c'est très, très fragile. On est très vulnérable. Je vaux ce que les autres pensent de moi. Mon frère, ma sœur, ça, c'est... Ça peut être là-dessus que ma vie est bâtie. Ça peut être là-dessus que ma relation est bâtie avec les autres. Dans la famille, au travail, dans l'Église. Je vaux ce que les autres pensent de moi. Et qu'est-ce qui arrive au moindre reproche? À la moindre critique? Je m'écroule. La personne vient de voir que vraiment je ne vaux rien, que vraiment je ne suis pas bon. ça vient nourrir ce mensonge-là, que je ne suis pas bon et que je ne vaux rien. Mensonge du diable. Il vous a comme ça. Si ta valeur dépend de ce que l'autre pense, de la façon dont l'autre te traite, oh boy, à moins de reproches, à moins de critiques, tu vas t'écraser à terre. Tu ne vaux plus rien. Ou bien, je réussis, je performe. Et qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Je m'enfle, je gonfle, je deviens orgueilleux. Il y a des gros égos qui sont pleins, et puis ils ont réussi à se prouver eux-mêmes et à prouver aux autres qu'ils valent quelque chose. Mais souvent, souvent, c'est au prix de bien des tourments. Alors, ou bien j'ai un gros égo qui est vide, puis je ne réussis pas à remplir, puis ou bien j'ai un gros égo qui est plein parce qu'il a réussi. Alors, soit que je me mets à performer, ou soit que l'enfant va abandonner. J'ai essayé de faire de mon mieux, j'ai essayé de faire tout ce qu'on m'a dit, j'y arrive pas, les attentes sont trop élevées, je suis toujours en train de gâcher tout. Alors, ça ne marche pas, ça ne vaut pas la peine, j'ai plus rien à perdre et je me laisse aller. Je me laisse aller. Je fais tout sauter. Je fais tout sauter autour de moi. Un suicide ou un rebelle, un suicide social, un suicide familial, moral, spirituel, un suicide avec l'Église, avec la société. On a comme les deux façons de dealer avec ce mensonge-là que je ne vaux rien. Soit que je performe, puis je vais réussir à prouver, puis s'il y a quelqu'un qui me fait un petit compliment, une petite goutte d'eau qui vient tomber dans le vase qui est vide. Ou bien, non, je n'ai plus rien à perdre, là, je sais que je ne réussirai jamais à satisfaire tout le monde. Et j'abandonne. Il y a un docteur, monsieur. Alors, comment prévenir ça? Il y a un docteur, monsieur, un spécialiste du mariage, monsieur Gottman. Et lui, il est capable de prédire à peu près 9 fois sur 10 si un couple va divorcer ou non. Il a fait des recherches, il a suivi des couples, et il sait 9 fois sur 10 si le couple va divorcer. Et savez-vous c'est quoi sa recette? Mais je pense que ça vaut aussi pour les enfants. Sa recette, c'est 5 fois plus de gestes, de paroles, d'actes qui communiquent à l'enfant ou au conjoint qu'il y a de la valeur. 5 fois plus de gestes d'affection, 5 fois plus de paroles encourageantes, 5 fois plus de comment on appelle ça, des hugs, des câlins. Bien sûr, sincères, hein? Oh, pas du fake, là. Alors, ça en prend 5 fois plus. Je pense, si on veut un mariage qui est réussi, ou si on veut des enfants réussis, 5 fois plus d'encouragement, 5 fois plus de choses positives à donner aux enfants pour qu'ils grandissent avec vraiment une bonne image d'eux-mêmes. Est-ce que Dieu le Père condamne ses enfants? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, je te le dis tantôt, le Saint-Esprit, le Père, ne te poursuit pas avec un bâton pour te faire obéir, et te punir, puis te faire payer le mal que tu as fait. Le Saint-Esprit, le Père ou Dieu, nous, qu'est-ce qu'il fait? Il nous corrige. Mettons qu'on dit quelque chose de pas bien, on fait quelque chose de mal, le Seigneur nous corrige. C'est différent de la condamnation. Il n'y a maintenant aucune condamnation, mais le Seigneur peut nous corriger. Pourquoi il nous corrige? Parce qu'il veut enlever de nos vies ce qui nous détruit, ce qui nous fait du tort, ce qui nous fait du mal. Il veut nous élever. Hein? On élève les enfants. Je pense que le mot le dit. On élève nos enfants. Et le Seigneur veut nous édifier. Le Seigneur veut enlever de nos vies ce qu'il fait. Et puis, des fois, on est têtu, on est... Mais le Saint-Esprit va venir mettre son doigt. Il va mettre son doigt jusqu'à temps qu'on ne soit plus capable de pratiquer cette chose-là qui nous détruit. Le Seigneur va, avec amour, avec fidélité, il va venir nous parler. Alors, l'Esprit ne nous conduit pas comme la police, comme un bourreau. Il nous conduit comme un parent aimant. Il nous conduit comme... Il nous traite comme si on était un enfant qui a de la valeur. Alors oui, l'enfant va désobéir, l'enfant va avoir besoin de... Il va avoir des conséquences, il a besoin de discipline, mais retenez qu'on doit leur enseigner qu'ils sont pardonnés. Qu'ils sont pardonnés. Pardonner, ça veut dire pas juste je sais que je suis pardonné, mais je ressens que je suis pardonné, je reçois le pardon de Dieu et je peux me relever et marcher à nouveau dans la sainteté. Hein? Vivre en paix avec moi-même, avec les autres et avec Dieu. C'est important de ne pas laisser l'enfant dans la discipline seulement, dans le sentiment qu'il ne vaut rien parce qu'il a fait telle affaire, mais vraiment de le prendre et de le relever, puis de dire, regarde, tu peux être pardonné pour ce que tu as fait. Et le Seigneur fait la même chose avec moi, fait la même chose avec nous. Il veut nous pardonner, il veut nous relever, il ne veut pas qu'on vive avec cette honte, cette culpabilité qui est toxique, qui nous suit continuellement toute notre vie parce qu'on a fait telle chose dans notre vie. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça que Dieu veut. C'est pas ça que l'Esprit de Dieu veut. L'Esprit de Dieu veut que tu saisisses, que tu reçoives son pardon, le pardon de Dieu, que tu te relèves puis que tu marches la tête haute comme une fille, un enfant de Dieu, comme un fils de Dieu. D'accord? Alors, la question maintenant, c'est où est-ce que l'Esprit nous conduit? Dans quoi est-ce que l'Esprit veut qu'on marche, qu'on vive? Quel est le numéro un? Avez-vous une idée? Ce que Dieu veut, c'est? Ah! Peut-être que vous n'auriez pas pensé à ça. Ce que Dieu veut, je dirais, la priorité, c'est notre sanctification, notre sainteté. Hein, le petit Philippe et Regina, je pense qu'il prie ça. Hein? Seigneur, sanctifie-moi, elle dit ça. Il a quel âge? 6 ans? 5 ans. Il prie le soir, Seigneur, sanctifie-moi. Même Jessica, hein, qu'elle ne savait pas c'était quoi. Elle n'est pas là. Oups. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il veut? Alors, dans toutes les épîtres, le Saint-Esprit, l'ennemi numéro un, c'est... c'est pas les Romains, c'est pas les Grecs, c'est pas les Juifs. L'ennemi numéro un, c'est la chair. C'est la chair. Hein? T'es opposé à la chair. Alors, la première préoccupation du Saint-Esprit, là, c'est pas quel travail, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie. Ce n'est pas sa priorité. Ce n'est pas qui tu vas marier. Ce n'est pas qu'est-ce que tu vas acheter. La rouge à 50$ qui est en spécial ou la bleue rayée que j'aime à 100$. Tu n'as pas 100$, mais... C'est pas ça qui est sa prière. Où est-ce que je vais déménager? Toutes les autres questions qu'on a. Dis pas que le Saint-Esprit ne peut pas nous aider et que ça ne l'intéresse pas. C'est pas ça. Sa priorité, c'est le cœur pur, un cœur qui est saint, hein? Le cœur qui est consacré au Seigneur. C'est ça qui est la priorité du Saint-Esprit dans ta vie, mon frère, ma sœur. C'est pas qu'est-ce que tu vas manger ce midi. Si, hein, après, une fois que le cœur est purifié, le cœur est sanctifié, je pense que tu vas être en mesure de prendre les bonnes décisions, faire les bons choix, conduits par le Saint-Esprit. Alors, le pire ennemi contre marcher selon l'Esprit, c'est marcher selon la chair. Maintenant, vous savez comme moi qu'un chrétien, ça n'a pas de problème avec la chair. Oups! Je répète, un chrétien, ça n'a pas de problème avec la chair. Tant qu'elle est morte, ça va. Mais elle n'est pas morte. Elle ressuscite très souvent, on dirait. C'est quoi qui se passe? Hein? Dans les forteresses, les fins de semaine qu'on fait, là, première session, je demande aux personnes d'écrire les luttes qu'elles ont sur un petit papier. C'est anonyme. On pourrait le faire ce matin, on aurait pu le faire. Écrivez, c'est quoi vous luttez? C'est quoi dans votre vie que vous aimeriez que ça disparaisse, puis que c'est encore là, puis ça vous obsède, puis ça vous achale, puis ça vous suit. Puis... Et là, la réaction des gens, « Oh, je ne suis pas tout seul. Hein? » Vous êtes venus ce matin, vous pensez que tous les autres sont saints, puis vous autres, vous n'êtes pas si saints que ça. Si jamais, si on vous connaissait, hein, oh! Si vous viviez avec le pasteur, mais ben, pas celui-là, celui-là. Ouais. Alors, on est tous aux prises avec les convoitises de la chair. Tous aux prises avec ça. Mauvaise nouvelle, après 50 ans de vie chrétienne, là, ma chair là, est toujours aussi stupide. Elle est prête à avaler n'importe quoi, n'importe quand. Hein? Elle est toujours aussi excitée, toujours aussi passionnée pour toutes sortes d'affaires qui souvent ne sont pas du Seigneur. Hein? La chair, elle est stupide. Un peu plus de conviction. La chair, elle est
stupide.
Bon. Vous voulez la convertir? Bonne chance. Essayez de convertir le diable. Vous allez avoir plus de chance que de convertir votre chair. Alors, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de temps qui sont consacrés à essayer de convertir la chair. Arrêtez d'être tenté, avoir des convoitises. Le meilleur truc, 5 minutes, arrêtez de respirer. On essaye, on ne respire pas pendant 5 minutes, fini les convoitises, on va être au ciel. La chair, elle ne sera plus là. Oui, puis si on est pardonné, ouf! Et nous sommes pardonnés. Et alors, est-ce que chrétien peut avoir des pensées impures, peut avoir des pensées méchantes, malhonnêtes, vicieuses? Est-ce qu'un chrétien peut avoir ça? Quelle sorte de chrétien je suis? Est-ce qu'un chrétien peut avoir des pensées méchantes? Mon frère, ma sœur, là, Jésus en a eu. Jésus, il en a eu. Qu'est-ce que le diable il a mis dans sa pensée? Prosterne-toi devant moi, puis adore-moi. Hein? Puis, tous les royaumes de la terre, tu peux les avoir. Puis, tu peux manger de façon égoïste. Hein? Jésus a eu ces pensées-là. Est-ce que Jésus a péché? Non? Non? C'est qu'est-ce que je fais avec la tentation? Qu'est-ce que je fais avec ça? Pas le fait d'en avoir. Si tu te bats contre ça, là, tu vas te battre toute ta vie puis tu vas être dans la défaite parce que tu ne veux pas que ça vienne puis ça vient pareil. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Combien de chrétiens ont été tourmentés toute leur vie parce qu'il y avait une honte, une culpabilité qu'il n'y a pas d'affaire là. Non, non. Je ne peux pas empêcher les oiseaux de tourner dans le ciel, mais je peux les empêcher de venir faire leur nid. Hein? Alors, mon frère, ma sœur, lorsqu'il arrive une tentation, fais comme Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Ça vient d'où, ça? Hein? Il est écrit. Ça vient d'où, ça? Arrière de moi, Satan, arrière de moi, cette pensée, arrière... Non. Hein? Si je lutte contre ça, si j'essaie de ne pas l'avoir, cette pensée-là, hein? Impossible. Mais si je dis stop, stop, j'ai le pouvoir en Jésus-Christ de lever la main et de dire non, je ne laisserai pas cette inquiétude-là, ça peut être des inquiétudes, me ronger toute la nuit. Je vais passer toute la nuit à me faire des plans pour essayer de... Non, non, je refuse cet esprit d'inquiétude-là. Inquiétude est normale, mais qu'est-ce que je fais avec? Alors, c'est inévitable d'être tenté. C'est qu'est-ce que je fais avec qui va faire toute la différence. Donc, arrière de moi, Satan. Et la première chose, si on veut résister, stop, ça vient d'où ça? OK? Essayez ça cette semaine, m'en donnerai des nouvelles. Tu as une pensée qui vient, une tentation qui vient, stop. Hein? Et le plus rapide, tu fais ça, le plus facile, la victoire, va être. Comment on tue un serpent? Dans l'œuf. Hein? Hein? Mettez le blâme au bon endroit. Jésus n'a pas dit, quelle sorte de fils de Dieu que je suis d'avoir des pensées comme ça. Hein? Alors, plus vite je suis capable de l'identifier, de dire, ça ne vient pas de l'Esprit Saint. Cette chose-là, ça ne vient pas de l'Esprit. Ça vient de ma chair stupide. Et on a un bouton là, à l'intérieur, là, delete, un bouton supprime. Puis le plus vite je supprime, le plus vite tu vas avoir la victoire, le plus vite tu vas être bien, tu vas être content parce que tu as eu la victoire, tu vas savourer la victoire. On essaye ça? Le diable essaye de garder les croyants captifs, hein, en leur faisant croire quelque chose. Et cette chose-là qui tient les chrétiens captifs, c'est le mensonge. La chair, elle est. Et la vérité, c'est que la chair, ce n'est pas moi. La chair, là, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Hein? Regardez la description, plusieurs termes qui sont décrits. J'ai un tableau qui décrit que la chair, ce n'est pas moi. Je ne suis plus le vieil homme que j'étais. Le vieux Michel, là, ce n'est plus moi. Hein? La vieille nature, ce n'est plus moi. Le cœur de pierre, hein? Le Seigneur dit, je vais enlever le cœur de pierre puis je vais vous donner un nouveau cœur. Le cœur de pierre, c'est plus moi. Irrégénéré, rebelle, ça, ce n'est plus un enfant de Dieu. C'est pas comme ça qu'un enfant de Dieu est décrit. OK? L'autre côté, on va voir le tableau bientôt, mais ça, c'est ce que j'étais avant. Ma vieille nature, la chair, stupide, c'est ce que j'étais. Maintenant, ce que je suis, veux-tu savoir ce que tu es maintenant? Un nouvel homme, une nouvelle femme. Tu as une nouvelle nature. Tu es régénéré, tu es né de nouveau. Tu ne peux pas être irrégénéré puis régénéré en même temps. Tu as un nouveau cœur, tu ne peux pas avoir un cœur de pierre puis le nouveau cœur en même temps. Puis tu as le Saint-Esprit qui est en toi. Ça, mon frère, ma sœur, c'est la clé là, de la victoire. Comment tu te vois? C'est quoi ton identité? Si tu penses que parce que tu as ces pensées-là, tu es un impur, un méchant, le combat est perdu d'avance. Mais si tu es capable de dire stop, non. Si je gratte comme il faut dans le fond de mon cœur, ce que je vais trouver, là, c'est un Michel qui aime la sainteté. Hein? La chair est stupide, elle est encore là, mais le point ce matin, c'est que ce n'est pas moi. Ce n'est pas ma nature, ce n'est pas mon identité. Imaginez que vous êtes chez vous, vous venez de faire vos parterres, vos belles fleurs en avant, hein? Et puis, il y a un beau camion de vidange qui passe. Puis là, il recule dans votre cour. Hein? Puis là, il se met la benne commence à décharger ses cochonneries sur vos belles fleurs. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on dit, « Oh non, pauvre de moi, qu'est-ce que j'ai fait? » Qu'est-ce qu'on fait? Sors le fusil. Ma chère, elle est morte. Vous avez la preuve. Une joke. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, stop, hein? Stop. Tu me prends pour qui? Me prends-tu pour un dépotoir? Hein? Et essayez-le. Essayez ça. Stop, hein? Tu t'es trompé d'adresse, tu te trompes de personne. Dehors. Puis là, tu vas goûter à la sainteté. Tu vas goûter au cœur pur. Tu vas goûter à la propreté. Tu vas sentir ton nouveau cœur qui bat. Puis tu vas être tellement content d'avoir eu la victoire. Hein? Tu vas aimer ça. Tu vas dire, hey, ça marche. J'ai goûté au lieu de me laisser emporté par la chair stupide. J'ai été capable de dire « Stop, c'est pas moi, c'est pas ça que je veux. » Puis, wow! Est-ce que c'est facile? Ça va être facile? Oh non, c'est pas facile. Il y a un combat acharné, on l'a vu tantôt dans le texte qu'on a lu. Mais ce que je vous dis ce matin, c'est que marcher selon l'esprit, ça s'apprend. Ça s'exerce comme un muscle. Puis ça donne le goût de la victoire. En terminant, est-ce qu'on va avoir le... Je dirais, c'est comme changer d'alimentation. Vous devez essayer de changer d'alimentation. Oui. Je dirais que physiquement, nous sommes ou nous devenons ce que nous mangeons. En grande partie, n'est-ce pas? Et spirituellement, je dirais même mentalement, nous sommes ce que nous pensons et ce que nous croyons. Jacques 1,15, ça le décrit bien. Je ne sais pas si je vais pouvoir le dire par cœur. Jacques 1,15, quelqu'un le connaît? Benoît, tu connais ça? Non, Jacques 1,15? Marc? Jacques 1,15? Ça parle de la convoitise qui a, c'est pas succombé, qui a triomphé, elle se change en péché, le péché donne la mort. Hein? Il y a un principe. Oui? Jacques 1,15. La convoitise enfante le péché. Alors, ce que je rumine dans mes pensées, qu'est-ce que ça produit? Des désirs, des émotions qui vont faire que je vais succomber. Hein? Et si je succombe, ben il va y avoir des conséquences. Alors, c'est pour ça que je parle de marcher selon l'esprit, c'est comme changer de diète. Vous dites, bien, j'ai mangé de cette façon-là toute ma vie, pourquoi est-ce que je changerais? Mon Michel, tu vas être diabétique. Oups! Pourquoi est-ce que je changerais? Parce que je ne veux pas être diabétique. Hein? Sinon, avant ça, là, on pense que tout est correct, que tout va bien. Mais ce que je mange est en train de ronger, de détruire ma santé, mon bien-être. Je suis affecté par ce que je mange et nous sommes affectés par ce que nous pensons, ce que nous méditons, ce qu'on pense et ce qu'on croit. Alors, bon, Ça aide, hein? Moi, je suis plus capable de prêcher sans PowerPoint. Alors, vous avez le résumé, la chair, c'est pas moi. Vous le retenez, là? Photographiez-le, là. La chair, c'est pas toi. Bonne nouvelle? C'est pas toi. Hein? La vieille âme, la vieille nature, le cœur de pierre, c'est pas toi. T'es qui, toi? Ta nouvelle identité? Ce que je suis en Jésus, moi, là, présentement, là. Puis t'as rien à faire pour ça, simplement qu'accepter Jésus comme ton sauveur. Tu vas avoir une nouvelle, tu vas naître de nouveau, tu vas avoir une nouvelle nature, un nouvel homme, une nouvelle créature. Tu vas avoir un cœur nouveau, régénéré, né de nouveau, créé à nouveau en Jésus, habité, conduit par l'Esprit. Et stop, camion de vidange, tu me prends pour qui? OK? Ensuite, chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. On se reconnaît bien là-dedans. Hein? Alors, on est très habile. On peut être très habile avec nos calories. Hein? On a des nouvelles règles, on sait, on étudie, on fait des études sur l'alimentation qui contre le diabète. Et on sait bien des affaires, mais quand vient le temps de les appliquer, oups! Saviez-vous que si personne ne te voit, c'est correct, il n'y a pas de calories. Mange en cachette des calories, puis... Les liqueurs diète annulent les calories dans la barre de chocolat. Liqueurs diète, tu peux manger du chocolat. Les calories ne comptent pas, s'annulent lorsque vous mangez avec quelqu'un d'autre qui mange la même chose. Les calories s'évaporent du gâteau lorsqu'il est coupé en petits morceaux. Les biscuits brisés, ça compte pas, les calories. Les petits morceaux brisés, là. Toute nourriture prise au cinéma ou devant la télé ne compte pas parce que ça fait partie intégrale du divertissement. Et payez la traite autour de vous, vous aurez l'air moins gourmand. Hein? Vous faites du bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces vérités-là? Les vérités du Seigneur. La vérité va finir par nous rattraper. Si on commence à jouer avec la chair, si on commence à ruminer dans nos pensées des choses qui ne sont pas de Dieu, on va succomber, puis on va récolter ce qu'on a semé. J'aimerais terminer avec une petite vidéo. Elle est bien connue. Je pense que c'est Lise qui m'a référé ça, mais c'est tellement bon. Ça montre jusqu'à quel point nos émotions, ce qu'on pense, ça joue ensemble dans notre façon de faire. Alors, regardons ça. Vous voyez comment qu'on peut, comment nos pensées affectent nos émotions, nos choix, nos désirs, puis nos actes. Alors, à quoi est-ce qu'on va penser cette semaine? Qu'est-ce qu'on décide de ruiner cette semaine? Les choses que la chair va nous proposer ou d'ouvrir la porte au Saint-Esprit et dire « Saint-Esprit, viens ». Alors, prions ensemble. Oui, Père Céleste, on a vu ce matin que par ton Saint-Esprit qui habite en nous, on peut avoir cette victoire sur... les tentations, les désirs qui viennent de la chair. Et Seigneur, ce matin, ensemble, on veut lever la main et dire « Stop! » Ce camion de vidange-là ne viendra pas déverser ses déchets dans mon cœur cette semaine. Je vais plutôt, Seigneur Dieu, me remplir, méditer, chanter tes louanges, des actions de grâce en ton nom et servir mes frères, mes sœurs du mieux que je peux. Tout ça, Seigneur Dieu, pour ta gloire. Amen.